leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ, toute cette semaine, en Israël. Hors-champ, ce soir, en compagnie de Avi Mograbi. Mograbi, vous êtes cinéaste, réalisateur, acteur dans la plupart de vos films. Vous êtes aussi plasticien, puisque vous avez eu d'ailleurs une rétrospective au musée du Jeu de Paume et très récemment à la Maison des Métallos, une grande installation qui s'intitulait The Details. Et vous avez fait de nombreux films ayant trait au présent, au passé et à l'avenir du pays. D'ailleurs, en ce moment même, vous êtes en train de tourner un film. On y reviendra tout au long de cette émission sur ce qui se passe en Israël pour certains clandestins. Je voudrais d'abord qu'on commence par votre enfance. Vous aviez un grand-père qui était propriétaire d'un cinéma qui s'appelait, je crois tout simplement, le cinéma Mograbi, ici à Tel Aviv. Donc vous êtes né dans le cinéma.
Oui, c'est vrai, je suis né pas loin d'ici. J'ai toujours vécu dans ce quartier et le cinéma de mon père était lui aussi à 5 minutes de vélo d'ici, près de la mer, le cinéma Mograbi. Et c'est vrai, c'est là-bas que j'ai grandi. Mon père dirigeait ce cinéma et j'y passais mes jours et mes nuits.
Et vous pensiez qu'un jour, vous-même, vous tiendriez une caméra?
Lorsque j'étais jeune homme, j'ai toujours voulu être réalisateur, mais mon père pensait que c'était une extrêmement mauvaise idée, parce que les réalisateurs de cinéma ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il a eu raison d'ailleurs, parce que j'avoue que je ne gagne pas ma vie de la réalisation de films, et j'enseigne pour gagner ma vie. Mais en fin de compte, je me suis rebellé contre mon père, de cette manière et aussi d'autres façons. Mais oui, je suis devenu réalisateur.
Existe-t-il une censure ici en Israël?
Elle n'est pas explicite. Et il est parfois difficile de l'identifier. C'est de l'autocensure. C'est une autre forme de censure. Mais je pense qu'il n'y a pratiquement aucune situation dans laquelle une institution officielle vous dit « ça, vous ne pouvez pas le faire ». S'il existe une censure, il est souvent très difficile mettre le doigt sur cette censure et de dire voilà ce qui a été censuré. Les gens comprennent qu'il s'agisse des gens qui sélectionnent les œuvres d'art ou les gens qui créent même les œuvres d'art, comprennent ce qu'ils ont droit de faire, ce qu'ils n'ont pas droit de faire. Vous savez, jusqu'à récemment, je vous aurais dit qu'Israël est une démocratie merveilleuse si vous êtes juif. Aujourd'hui, même cela, je pense qu'on est en train de le remettre en cause. Récemment, la Cour suprême a approuvé la loi qui interdit les citoyens israéliens à appeler au boycott d'Israël ou au boycott des colonies. Et si quelqu'un appelle à un tel boycott, il risque d'être soumis à une très forte amende si on prouve qu'il a causé des dommages. Et c'est une atteinte à la liberté d'expression. Autrefois, on pensait parfois que les Palestiniens ne jouissaient pas de la démocratie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des Juifs qui ne jouissent pas de cette démocratie.
Être israélien, ça veut dire être juif israélien?
Non. Être israélien, c'est Il y a des Juifs qui sont israéliens, il y a des musulmans, des circassiens, des druzes, des bédouins, il y a toutes sortes d'israéliens. Mais il est évident que les Juifs israéliens sont les patrons, sont les propriétaires des lieux. Les autres sont égaux, mais un peu moins égaux que les autres. Et certains sont bien moins égaux que les autres. Mais on dit de tout le monde que tout le monde est égal, mais je ne pense pas que les Palestiniens israéliens, même les Bédouins qui eux font leur service militaire, je ne pense pas qu'ils aient le sentiment d'être égaux aux autres.
Y a-t-il des degrés dans la citoyenneté israélienne, des sous-citoyens, des vrais citoyens ?
Encore une fois, c'est un petit peu comme la censure. D'une manière formelle, cela n'existe pas. Mais dans les faits, oui, si vous regardez quels sont les budgets qui sont alloués aux localités arabes en Israël, saviez-vous que depuis 1948, il y a eu des centaines de localités juives qui ont été créées dans tout Israël, des localités rurales, des kibbutzim, des villes, des centaines et des centaines. Combien de localités arabes, à votre avis, ont été créées ? Les Arabes représentent 20% de la population israélienne. Combien de localités arabes, à votre avis, ont-elles été créées depuis 1948 ? Eh bien, aucune. Est-ce que cela vous serait venu à l'esprit ? Et à part certaines localités où vivent à la fois des Juifs et des Arabes, la plupart des localités ont une population homogène, soit des Juifs, soit des Arabes. Donc vous comprenez bien que les Arabes en Israël souffrent d'un manque de budget, d'un manque de développement. L'enseignement dans les villes et les villages arabes n'est pas le même, que ce soit du point de vue du niveau d'enseignement, du niveau des budgets. Les budgets de santé sont différents que les budgets juifs. Donc, du point de vue de la loi, tout le monde est égal, mais dans les faits, vous ne voudriez pas être palestinienne en Israël, croyez-moi.
Est-ce qu'on est au sens de born in Israël ou est-ce qu'on devient israélien ?
On ne peut pas devenir israélien à moins que vous soyez juif. Êtes-vous juif ?
Non.
Eh bien, vous ne pouvez pas devenir israélien. Il n'existe aucune procédure qui vous permettrait de venir en Israël, même si vous contribuez énormément à la société. Ah, si vous vous mariez à un juif, oui, ça n'est pas si simple que ça. Écoutez, moi, je pourrais être naturalisé en France. Oui, il y a des procédures, il faut vivre un certain nombre d'années en France, il faut contribuer à la société, parler le français, chanter la Marseillaise. En fin de compte, vous devenez français. C'est difficile, c'est compliqué. Il faut montrer qu'on est loyal envers le pays, mais en Israël, cette procédure n'existe pas. La seule procédure, c'est d'être juif. Si vous voulez faire la Alia, soit vous devez vous convertir, soit vous devez vous marier dans une famille juive.
Et pour pouvoir me marier en tant que femme, hélas, enfin, je dis hélas parce que on peut pas faire autrement, je dois me convertir à la religion juive, parce qu'il n'y a pas de mariage civil en Israël.
Vous pouvez vous marier en France, et venir en Israël. Votre mariage français sera reconnu en Israël, mais il n'y a pas de mariage civil en Israël.
Et pourquoi n'y a-t-il pas de mariage civil, puisque...
Pays de merde, non ?
C'est étrange quand même.
Parce que en Israël, il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État. Et le mariage est entre les mains des religions du grand rabbinat. Alors, sachez, Laure, que si vous vous mariez un mariage civil en français, que vous immigrez en Israël et que vous voulez, divorcer, eh bien, vous devrez quand même passer derrière par le rabbinat. Le rabbinat contrôle tout ce qui concerne les mariages. Et même si le mariage n'est pas religieux, c'est entre les mains du rabbinat.
Donc vous, vous êtes marié religieusement. Je connais votre femme puisque je vais voir vos films. Et que votre femme est dans vos films.
Disons que je suis divorcé religieusement. Je me suis marié, malheureusement, à un mariage religieux et j'ai divorcé. Un divorce religieux qui est en soi un événement tout à fait humiliant.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas comme si deux adultes venaient et disaient « Voilà, écoutez, ma femme et moi, nous ne nous aimons plus ». Il faut mentir et faire en sorte que les rabbins soient d'accord que vous divorciez. En quoi cela les concerne-t-il ?
Et vous avez quand même accepté.
Oui, j'ai été bête.
Et est-ce que votre femme vous a quitté parce que vous qui avez le cœur à gauche, vous qui êtes pour la reconnaissance d'un double État, elle vous a trouvé un peu moins à gauche à un moment donné de votre existence et notamment quand vous avez fait ce film aussi important et incroyable sur la campagne de Ariel Sharon et que vous êtes pris de sympathie pour Ariel Sharon?
J'ai eu de sympathie pour Ariel Sharon. C'était un fantasme, c'était la part de fantasme dans ce film. Et ma femme ne m'a pas quitté d'ailleurs.
Disons, elle vous en voulait, hein, quand même.
Non, aujourd'hui je ne suis pas marié, mais à l'époque elle ne m'a pas quitté. Nous sommes tous les deux, nous appartenons tous les deux à la gauche radicale et je pense que aussi bien elle que moi, nous n'acceptons pas vraiment la solution des deux États, qui est une solution qui n'existe plus. Ceux qui parlent de la solution des deux États, soit ne connaissent pas la réalité, soit ils mentent.
Alors, quelle est la réalité aujourd'hui et que s'est-il passé depuis le moment où vous avez tourné ce film ? Qui s'intitule « Comment j'ai appris à dépasser ma peur et à aimer Ariel Sharon ». Est-ce que la situation s'est beaucoup modifiée ? Et pouvez-vous nous dire, en ce moment, à Vimograbi, donc en juin 2015, comment vit cette société civile après ces élections ?
Écoutez, il est possible que lorsque j'ai fait ce film sur Ariel Sharon, c'était un film que j'ai tourné en 1996, donc c'était il y a un certain temps, peut-être qu'à l'époque, la solution de deux États était encore possible. Aujourd'hui, quand dans les territoires occupés vivent un demi-million de Juifs, la probabilité que ces Juifs quittent les territoires et que l'État de Palestine est un territoire continu sur lequel ils puissent exister, cette probabilité est très faible. Le choix de la solution d'un État est d'une part un choix idéologique, mais de l'autre, c'est aussi une solution que nous impose la réalité. La réalité ne nous permet plus le partage de la terre d'Israël / Palestine en deux. D'un autre côté, ce choix d'un seul État, cela fait naître de nombreuses craintes, puisque nous avons vu que dans de nombreux endroits, des guerres civiles, et nous avons vu que le conflit peut continuer même lorsque l'on unit les populations. Mais Israël se trouve dans une impasse. Nous faisons en sorte que la solution se détériore et qu'il n'y ait pas de solution et que le conflit perdurera jamais. C'est en tout cas mon avis.
Quelles sont les hypothèses pour sortir de cette impasse ? Vous qui êtes un militant pour la paix depuis maintenant 35 ou même 40 bonnes années, et vous qui avez fait aussi ce film très important qui s'appelle « Happy Birthday, Mr. Mograbi », qui prenait comme thème donc d'essayer de faire un film au moment de l'anniversaire du cinquantenaire de l'État d'Israël. Et tout de suite, vous êtes confronté à l'idée que pour les Palestiniens, le cinquantenaire de l'État d'Israël, eh ben, c'était le cinquantenaire de la catastrophe pour eux. Catastrophe d'avoir été balayer de chez eux.
Écoutez, je ne suis pas certain d'avoir dans ma boîte à outils la solution, parce que nous sommes véritablement dans une sorte d'impasse. Bon anniversaire, Monsieur Mograbi, qui a été tourné en 1999, il y a 16 ans, est précisément un film qui tentait de prendre ces deux histoires parallèles qui ne se rencontrent pas, l'histoire sioniste et l'histoire palestinienne, et de les raconter d'un seul tenant et de tenter de les unir à un moment. C'est plus ou moins le moment où j'ai commencé à comprendre que l'idée de deux États est une idée qui ne peut pas fonctionner. Écoutez, je ne voudrais pas dire quelle sera la solution en fin de compte, puisque quoi que je dise, cela n'aura aucune signification, mais une chose est claire. L'occupation des territoires, l'occupation des Palestiniens dans Cisjordanie et à Gaza doit se terminer. Ce doit être le premier pas pour une solution, quelle qu'elle soit. Peut-être que si nous arrêtons d'être des occupants, d'être en quelque sorte des seigneurs des serfs, c'est-à-dire des ceux qui se trouvent en bas de l'échelle, si les Palestiniens arrêtent de se trouver en bas de l'échelle, si cet écart entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés cesse, on pourra peut-être entamer un dialogue et ensemble voir quelle est la solution possible. Aujourd'hui, il me semble qu'aucune solution n'est possible.
Pourquoi, selon vous, Avi Mograbi, Netanyahou a gagné les élections ?
Parce qu'Israël devient de plus en plus nationaliste. Vous savez, le jour même des élections, Netanyahou a publié un film, une vidéo sur YouTube, dans laquelle il appelait les citoyens juifs à voter parce qu'on emmène les Arabes en autocar vers les bureaux de vote et que cela risquait d'être une catastrophe. C'est ainsi que le Premier ministre parle de citoyens israéliens. C'est aussi le moment où de nombreuses personnes qui n'avaient pas l'intention de voter ou n'avaient pas l'intention de voter Netanyahou se sont décidées à voter pour Netanyahou. Donc Israël devient de plus en plus nationaliste, de plus en plus xénophobe et de plus en plus fasciste.
Pourquoi fasciste ? Vous pensez qu'Israël est un État fasciste ?
Parce que cette préoccupation de la nation, de la nationalité, cette chose que l'on met en avant, cette histoire sioniste nationale, ne pas laisser la place aux autres récits, à certains niveaux, on ne laisse pas non plus la liberté d'expression, tout cela... c'est quelque chose qui a pris le contrôle de toute notre vie. Le gouvernement aujourd'hui veut mettre en place une nouvelle loi sur les associations qui empêchera des organisations non gouvernementales qui s'occupent de droits de l'homme de recevoir des fonds venus d'institutions étrangères ou qui leur imposera 50% d'impôts. On essaye par la force de contrer tous ceux qui essayent d'avoir un autre récit, de raconter une autre histoire. On essaye de faire taire ces gens-là. Ça ne marche pas toujours, mais nous sommes sur cette voie. Netanyahou a décidé de garder le portefeuille des télécommunications et des médias. Et il a déjà fait savoir qu'il allait régler ses comptes avec les médias. Israël, écoutez, il y a quelques années, je vous aurais dit, avec un peu d'ironie, de sarcasme, que c'est une démocratie formidable si vous êtes juif. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire cela. C'est une démocratie formidable si vous êtes juif et de droite.
Et combien de gens sont à gauche ?
Écoutez, la gauche est toute petite en Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont au centre. Et je suis désolé de vous le dire, mais c'est un centre qui n'a pas de qui n'a pas de couilles, voilà, je ne peux pas le dire autrement, qui n'est pas prêt à prendre de risques. Le parti travailliste est sur le bord de leur siège, ils sont tout prêts à rentrer dans le gouvernement Netanyahou. Donc on ne peut pas attendre que ces gens créent de véritables problèmes au gouvernement. Et la véritable gauche, les gens qui sont à la fois pour la paix et qui ont aussi des positions sociales justes, qui veulent réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Vous savez qu'Israël connaît un des fossés les plus importants au monde entre riches et pauvres. Donc des gens qui ont à la fois des idées sociales et qui ont des idées sur nos relations avec les Palestiniens, sur la paix, sur nos relations avec le monde arabe, eh bien cette gauche, elle est infime.
Vous dites, Avi Mograbi, que Israël est un État fasciste. Le fascisme, ça suppose la domination des êtres, la soumission. Vous pensez que c'est ce qu'on demande aux citoyens israéliens aujourd'hui, en juin 2015 ?
Oui. Je pense que ce fascisme est différent que le fascisme qu'on a connu en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est pratiquement un fascisme volontaire. Les gens acceptent ce contrôle. Ils ont été convaincus que l'État d'Israël subit une attaque formidable, que tout le monde entier veut nous attaquer, nous anéantir. Ils ont été convaincus que la seule chose à laquelle pensent les Iraniens, c'est de développer une bombe pour nous bombarder. Que le monde arabe tout entier, malgré le projet de paix saoudien qui propose une solution globale, que malgré tout cela, les gens sont convaincus, ont été convaincus que tout cela, que tout le monde arabe est contre nous. On n'a pas dû les mettre dans des stades et leur faire écouter des slogans. Ces slogans sortent du cœur des gens, automatiquement, spontanément aujourd'hui. Oui, c'est une sorte de fascisme. Où il n'y a pas une junte militaire qui contrôle l'ensemble de la population, mais c'est des gens qui ont intégré cet isolement ou qui préfèrent même être isolés. Alors, je peux te dire que je suis favorable au boycott, mais je n'ai pas le droit légalement d'appeler au boycott. Je n'ai pas le droit de vous appeler à boycotter Israël, donc je ne vous appelle pas à boycotter Israël, mais moi-même, je suis favorable au boycott. Moi-même, je n'achète pas de produits en provenance des colonies. Mais on peut craindre que s'il y a un boycott, la direction sera contraire. Ce ne sera pas comme en Afrique du Sud, où cela a aidé à la chute de l'apartheid. Mais peut-être qu'en Israël, cela fera renforcer l'apartheid.
Donc vous pensez qu'aujourd'hui, en 2015, Avi Mograbi, qu'Israël est comparable à l'Afrique du Sud avant l'apartheid ?
Écoutez, en Israël, on détient aujourd'hui 3 millions de personnes qui n'ont pas de véritable statut, qui ne sont pas citoyens, qui ne sont pas résidents. Je vous parle des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et le fait qu'il y ait comme un gouvernement en Cisjordanie dans la bande de Gaza, cela ne veut pas dire que nous n'occupons pas ces territoires. Personne ne peut sortir de ces territoires sans notre autorisation. Donc Israël a beau dire ce qu'il veut, nous contrôlons 3 millions de personnes sans droit. Est-ce que cela ne ressemble pas à l'Afrique du Sud ? Alors c'est différent, c'est vrai. C'est notre apartheid à nous. Voilà, personne ne peut nous prendre cette version particulière de l'apartheid.
Et vous êtes fier d'être israélien ?
Non, pas du tout. Je suis fier d'être un homme, d'être un être humain.
Mais est-ce que vous pensez qu'en Israël, justement, les hommes sont tous respectés ou est-ce qu'il y a différents degrés de considération des hommes selon son origine ethnique et sa classe sociale ?
Écoutez, il y a une dizaine de jours seulement, il y a eu une manifestation incroyable, pas à cause de la manifestation, mais à cause de l'attitude de la police envers les manifestants. Et c'était une manifestation de citoyens juifs israéliens, mais d'origine éthiopienne, qui manifestaient contre la discrimination donc des Éthiopiens juifs qui ont fait leur alia et pour lesquels Israël a fait de grands efforts pour les faire venir. Et à partir du moment où ils étaient ici, on a fait d'énormes efforts pour les humilier, pour qu'ils soient victimes de discrimination. Il y a eu une manifestation à cause de cette discrimination, à cause de la violence policière contre eux. Et dans les journaux, les policiers ont dit « Oui, c'est vrai, parfois, nous frappons les Éthiopiens. » Mais c'est parce que nous pensons que ce sont des Érythréens, puisque bien sûr, on a le droit de frapper des Érythréens, puisqu'ils ne sont pas juifs. C'est ce que les policiers ont dit. C'est incroyable. C'est incroyable de lire ce genre de choses. Alors, oui, Israël est un pays dans lequel le racisme et la discrimination et la question des origines sont des questions fondamentales qui sont le fondement de la société telle qu'elle existe aujourd'hui.
Et ce sont les thèmes de vos films, Avi Mograbi. Nous allons écouter un extrait de Z32, le début du film, qui montre le soldat hésitant à s'exprimer face à votre caméra qui le gêne. Il revient aussi sur la notion de choix. Z32, qui a été présenté en 2008 à la Mostra de Venise et qui a été vu dans le monde entier. On écoute.
כי כשצילמתי פעם שעברה לבד בבית אז כאילו אמרתי, אז היה שם איזה קטע שדיברתי כאילו עלייך, אלייך יעני שאמרתי יעני שאת כאילו לא מבינה איך כאילו איך יכולתי, גם את וגם דעת אבי כשהוא דיבר איתי אז כאילו אמר לי שהוא לא מבין איך יכולתי, כאילו איך יכולתי לעשות את זה ואיך, לא יודע שכאילו שהייתה לי בחירה כמו שאלת אמרו, זה הייתה לי בחירה, ואני טוען שלא הייתה לי בחירה, ועל זה בעצם אנחנו רבים פה עוד דרך רשייה, כמו שרבנו עם גל, ונחזרים ברור את זה במים.
Comment s'est fait ce film Z32? Comment avez-vous pu tourner ce film, qui est en même temps une mise en abîme du cinéma, puisque vous êtes contraint de faire appel à des dispositifs cinématographiques pour obtenir la vérité? Racontez-nous la genèse de ce film, le choix de ce sujet et comment finalement le fait dans toute votre cinématographie Avi Mograbi de travailler sur des sujets très difficiles, constitutifs de l'identité israélienne, vous a obligé à inventer une forme de cinéma.
Ce film a commencé comme un film très simple. Lorsque j'ai commencé à penser à ce film, je n'aurais jamais pensé à quel point les choses se compliqueraient et ce serait difficile à tourner, en tout cas d'un point de vue technique. Je participe à une organisation qui s'appelle Breaking the Silence, une organisation avec d'anciens soldats qui réunissent des témoignages sur leur service militaire, sur le service militaire de d'autres soldats dans les territoires occupés. La semaine dernière, nous avons publié un nouveau livre de témoignages qui est intitulé « C'est ainsi que nous nous sommes battus à Gaza à l'été 2014 », donc des témoignages de l'opération Bordure Protectrice. C'est un livre de témoignages très fort qui raconte le changement très radical que la stratégie militaire a subi, la stratégie militaire israélienne a subi. Et une des choses que j'ai faites dans le cadre de mon travail pour Breaking the Silence, c'est écouter des témoignages et mettre ces témoignages par écrit Et un des témoignages que j'ai entendu, c'était le témoignage de Z32, et je pensais que c'était un témoignage très fort et qu'on pourrait faire un film très simple basé sur ce témoignage. Voilà, j'ai entendu ce témoignage en enregistrement. Je pensais qu'en vidéo, ce serait aussi très simple. Je voulais faire un film très simple avec quelqu'un face à la caméra qui témoignerait. Mais effectivement, les choses se sont compliquées et c'est devenu un film typique d'Abu Ghraib, puisque ce jeune homme, Z32, a accepté de participer au film et n'a pas accepté que l'on voit son visage. Et j'ai pensé que sans voir les expressions de son visage, sans que l'on voit son humanité, il était impensable de raconter cette histoire. Donc, jamais je n'aurais pensé faire ce film sans l'humanité de quelqu'un qui est en fin de compte devenu un criminel de guerre. Et la solution a été à la fois de le voir, mais sans qu'on puisse l'identifier, que l'on puisse voir les expressions de son visage, mais sans pouvoir l'identifier, et cela grâce à un masque numérique en 3D, qui a été un événement colossal d'un point de vue budgétaire. Cela m'a absolument ruiné. Et puis, à partir du moment où on a trouvé cette solution technique, artistique, pour dissimuler le visage tout en le montrant, on commençait à se poser les questions morales. Que cela signifie-t-il? Si c'est moi qui lui ai créé ce masque, qui lui ai créé cette cachette, quelle est ma responsabilité par rapport aux actes qu'il a commis? Et toutes ces questions, qui sont des questions de morale par rapport à l'acte cinématographique, par rapport à l'acte de militantisme. Toutes ces questions sont exprimées dans le film par la musique et la chanson. Et voilà, il y a eu un ensemble de musiciens qui est venu chez moi dans mon salon et moi, je chante mes dilemmes et mon sentiment d'échec à cause de la réussite de ce film.
Ben, on va vous écouter. אל תביא את זה הנה אל תביא את אישה לא הנה זה סיפור על אחד חייל הוא חונך והפנים ששייך הוא לטובי הבנים להמתין שרק יתנו לו. On vient de vous entendre donc chanter. Vous savez tout faire. Vous êtes acteur dans vos propres films. Et là aussi, c'est un dispositif cinématographique qui vous permet d'être le témoin engagé de votre pays et de pouvoir témoigner de cette société israélienne civile qui ne s'accommode pas de ce devenir politique aujourd'hui en Israël. Vous êtes aussi réalisateur et vous êtes aussi finalement une sorte de personnalité politique. Quand vous faites « Dans un jardin, je suis entré », ce film, c'est aussi un manifeste que vous avez signé en 2012 et qui est un acte de croyance à l'avenir, un acte utopique d'un pays où juifs et arabes pourraient vivre en paix. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, vous feriez un tel film?
Je ne suis pas certain que dans un jardin, je suis entré et exprime la foi dans un avenir positif. Ce film, Dans un jardin, je suis entré, essaye de saisir une énergie venue du passé. Est-ce que cela a vraiment existé de cette manière ou est-ce que c'est un peu comme nous l'imaginons dans le film, il s'agit de saisir une énergie pour préserver le peu que nous ayons aujourd'hui et pour prier pour un avenir meilleur. Mais vous dire que je crois en l'avenir, ça, je n'en suis pas certain. Ce film est avant tout... Peut-être que c'est un film qui est trompeur, qui donne l'impression d'une vision universaliste, mais en réalité, c'est un film très individuel sur les relations, sur mes relations avec Ali. Peut-être que cela ne dit rien sur le reste du monde, peut-être que cela ne dit rien sur l'avenir. Je voudrais avoir espoir, mais aujourd'hui, en Israël, aujourd'hui, il n'y a rien à espérer. Chaque jour est pire que le précédent.
On va écouter un extrait de votre film « Dans un jardin, je suis entré », un extrait dans lequel vous, Avi Moghrabi, et votre ami Ali El-Azari, donc un arabe israélien, vous êtes tous les deux en voiture. Ali, donc vous demandez à Avi s'il aimerait renaître, recommencer à zéro, renoncer à ce qu'il a été. On écoute cet extrait.
היית מוכן להיוולד מחדש? תענה.
אבל אז תגיד לי רק, אם זה אומר שאני אוותר על כל מה שהיה עד עכשיו.
אני מפנה את השאלה לצלם.
הוא רוצה להיוולד מחדש, העיקר לא פה, לא איתנו.
זה כבר בעיה שלו.
הוא חולם על זה בלילות.
כשאתה נתקע בשאלה כזו, אתה לא יכול לחמוק מכל הרקורד שלך, כן? זה של אבא ושל אמא ושל... כל השואר, מה שדחסת,
אני לא רוצה להיוולד מחדש.
אחרי שאני אמות.
אחרי שתמות.
אני אגיד לכם את האמת. כן. דה.
בברית המועצות?
לא, היר, גלילי, נזרת. כן, למה לא? החיים מעניינים, לא?
אבל מעניינים, אז למה צריך משהו אחר?
On ne peut jamais recommencer sa vie à zéro. Que vous reste-t-il à vivre, Avi Moghrabi?
J'espère que encore 2 ou 3 ans.
Seulement?
Non. Un peu plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas le sentiment que j'ai quelque chose d'extrêmement important à faire d'un point de vue personnel. Je me contente du bonheur en tant qu'individu, de voir que mes enfants sont heureux. En ce qui concerne cet endroit où je suis né et dans lequel j'ai vécu toute ma vie, j'ai peu d'espoir, très peu.
Mais ce n'est pas pour autant que vous renoncerez à votre nationalité israélienne.
Où irais-je? La France, c'est encore pire. L'Allemagne, c'est encore pire. Les États-Unis, c'est encore pire. Israël a un problème de colonialisme aujourd'hui. La France, l'Allemagne, les États-Unis ont un problème de colonialisme dans leur passé. Ils ne savent pas comment sortir, l'esclavage et tout cela. Pourquoi Israël serait pire que ces pays-là? Et ce sont des pays où je suis étranger, dont je ne connais pas la culture, dont je ne connais pas la langue. Qui ferais-je? Je ne pense pas qu'Israël soit le pire endroit du monde. Le monde a un dossier assez important de turpitude à porter. Donc je suis né ici, j'habite ici, et j'ai aussi un mot ou deux à dire sur cet endroit.
Justement, pouvez-vous nous dire ce que vous faites en ce moment dans le désert?
Je fais un film avec des demandeurs d'asile africains, d'Érythrée et du Soudan, qui sont détenus dans une sorte de prison ouverte, dans le désert, dans le nord du Negev, un endroit dans lequel ils doivent revenir chaque nuit. Ils peuvent en sortir pendant la journée, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont à la prison bien qu'ils aient le droit de sortir des murs de cette prison pendant la journée. Et ils n'ont pas été jugés, ce sont des décisions administratives, ce sont des gens qui ne possèdent aucun statut, qui ont déposé des demandes d'asile. Certains ont déposé ces demandes il y a 2-3 ans et l'État d'Israël ne traite pas leurs demandes, ne répond pas aux demandes d'asile. Il n'y a que sur les milliers de demandeurs d'asile, il n'y a eu que 4 personnes qui ont reçu, dont la demande d'asile a été approuvée. Et cela n'existe nulle part ailleurs au monde. Et c'est encore une composante du fascisme doux qui existe aujourd'hui. La procédure administrative semble fonctionner, mais en réalité, et Israël est un pays de réfugiés qui a été créé. Ces fondements sont les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un pays aujourd'hui qui regarde les réfugiés d'Érythrée, de la terrible dictature qu'il y a en Érythrée, du génocide du Soudan. Et Israël ne voit pas son propre reflet dans ces réfugiés. Le fait que ces réfugiés soient noirs, qu'ils ne soient pas juifs, tout cela suffit pour leur refuser l'asile. Donc, je fais un film avec ces gens-là, avec un metteur en scène de théâtre. Nous avons mis en place un atelier de théâtre avec un petit groupe de demandeurs d'asile. Et encore une fois, je n'ai plus d'espoir de voir une solution institutionnelle. Maintenant, mon espoir, c'est uniquement à un niveau individuel. Si on peut faire le bonheur d'une seule personne, c'est mieux que tout ce que pourra faire tout ce que pourront faire les institutions.
Vous êtes célébré en France et aussi dans d'autres pays européens, mais aussi aux États-Unis. Vous avez droit à des rétrospectives. On peut voir tous vos films en DVD. Est-ce que en Israël aussi, vos films sont visibles? Et que représentent-ils?
Écoutez, on peut voir mes films. À ce jour, tous mes films ont été diffusés sur la télévision par câble. Encore une fois, il n'y a pas eu de censure. Il ne fait aucun doute que la visibilité de mes films, de mon art, de ce que j'ai à dire en Europe, cette visibilité est plus importante en Europe qu'en Israël. Eh bien, écoutez, très bien, je ne peux pas dire « je suis un génie » et voilà, vous n'y comprenez rien. Tant qu'on ne me censure pas, eh bien, voilà, les choses sont ainsi. En démocratie, on a la liberté d'expression et on a aussi la liberté de ne pas écouter. Et je ne peux pas forcer les gens à m'écouter.
Ben, merci beaucoup et bon courage pour le prochain film. On a hâte de le voir. Et vive à vie Mograbi. Demain, 5e émission de cette série sur et en Israël, avec le philosophe Raphaël Zaghouri Orly. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Clémence Bonfils, Corinne Amar, Élodie Royer, Julien Rosa et Véronique Villa. Et merci à Michael Val qui a assuré la traduction simultanée de cet entretien. Et merci à l'Institut français de Tel Aviv et à Shalom Bahrou. Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.